la convention a enfin, enfin voté le procès de la putain couronnée.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle série du fil de l'histoire. Cette semaine, on parle du procès de la reine Marie-Antoinette qui, en octobre 1793, la conduira à la guillotine. De quoi Marie-Antoinette était-elle coupable? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine, du lundi au vendredi à 14h, à podcaster soit chronique après chronique, soit dans la totalité de la série qui est aussi diffusée le dimanche soir à 21h sur France Inter.
Tenez, je vous recommande aussi ce petit livre-là.
Qu'est-ce que c'est ?
La vie scandaleuse de Marie-Antoinette. Ses amants, ses amours, ses adultères, ses vices contre nature, ses complots avec le duc de Brunswick, ses trahisons contre nos soldats, tous ses crimes. Ça vaut la peine, je vous jure.
Entre haine et idolâtrie, rarement dans l'histoire, une reine n'a suscité de sentiments aussi opposés, aussi passionnés, voire violents. Juste avant et surtout pendant la Révolution, Marie-Antoinette, figure préférée des caricaturistes les plus crus, incarne à elle seule tous les vices de la monarchie. Autrichienne, donc traîtresse à la France, reine scélérate, dépensière, saphique, femme monstrueuse et lubrique qui trompe et domine son époux Louis XVI, roi impuissant. Si détestée que plusieurs fois dès 1789, on a cherché à s'en prendre à sa vie. Tandis qu'à l'inverse, au début du XIXe siècle, après la Restauration, Marie-Antoinette, la reine condamnée et guillotinée, ferait l'objet d'un véritable culte, sanctifié pour son martyre. Un tableau du peintre anglais William Hamilton la représente conduite à l'échafaud par une armée de soldats. Elle porte la robe blanche et pure d'une sainte, le visage auréolé de lumière et tourné vers le ciel. À la fin du XIXe siècle encore, l'écrivain mystique Léon Blois racontera le procès de la reine martyre dans la salle du palais, je cite, « pleine à craquer d'une masse nauséabonde de sans-culottes, trépignant, mangeant, applaudissant, abjecte physionomie d'assassin privé de sommeil ». Avec le retour de la République, la tradition régicide s'est perpétuée au XIXe et XXe siècle. Il n'y a aucun doute, Marie-Antoinette était coupable et fut à juste titre condamnée à mort pour avoir orchestré avec les puissances étrangères tous les complots qui avaient pour but de mettre fin à la Révolution et de ramener au pouvoir la monarchie absolue. Un personnage donc si ambivalent que, plus près de nous, dans les années 1990, le metteur en scène Robert Hossein créera à Paris une pièce consacrée au procès de Marie-Antoinette où les spectateurs, à la fin du spectacle, voteront pour ou contre la mort de la reine. Mais au milieu de ces représentations contradictoires, qui était vraiment la femme qui s'est présentée devant le tribunal révolutionnaire le 14 octobre 1793 ? Marie-Antoinette, veuve Capet, reine de France déchue, de quoi était-elle accusée? Avait-elle une chance d'échapper à la mort? Et lorsqu'elle était finalement condamnée, de quoi était-elle reconnue coupable? C'est de ce procès de Marie-Antoinette que nous parlons avec vous, Emmanuel de Varesquiel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de la Révolution française, de l'Empire et de la Restauration, et académicien depuis mai 2025. Félicitations. Et pour le sujet qui nous intéresse ce soir, vous êtes l'auteur de « Les derniers jours de Marie-Antoinette » qui est paru en poche chez Talendier.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Dès le début de la Révolution, Marie-Antoinette est confrontée à une impopularité qui, au fil des mois, s'exprimera de plus en plus ouvertement, de plus en plus violemment, au point qu'on en voudra à sa vie. Impopularité d'abord discrète, lorsqu'en mai 89, à Versailles, à l'ouverture des États généraux, le roi est ovationné, tandis que la reine est accueillie, elle, par un silence glacial. Rapidement, cette impopularité se transforme en véritable haine. Durant les journées d'octobre 89, où des femmes du peuple de Paris se rendent à Versailles pour réclamer du pain, certaines d'entre elles envahissent le château au cri de « à mort l'Autrichienne » et gagnent en premier les appartements de la reine. Très clairement, les insurgés veulent sa tête. La reine ne doit la vie qu'à l'intervention d'un garde du corps qui, lui, est tué, sa tête plantée sur une pique. La famille royale est contrainte de quitter Versailles pour Paris. Désormais, Marie-Antoinette vivra en permanence sous la menace de la violence révolutionnaire. Une violence qui se radicalise après l'échec de la fuite à Varennes en juin 1791. Cet épisode ne laissant plus de doute sur l'intention du couple royal de fuir la France et de combattre la Révolution depuis l'extérieur. Désormais, Le divorce est consommé entre le peuple et l'Autrichienne, jugée responsable des défaites des armées françaises. En juin 1792, lorsque le palais des Tuileries est envahi par les sans-culottes, Marie-Antoinette, traquée dans les couloirs, les portes volant en éclats sous les coups de hache, ne doit la vie qu'au sang-froid de gardes nationaux. Le lendemain, elle écrit à son amant, le comte de Fersen, « J'existe encore, mais c'est un miracle ». La menace se présente à nouveau le 10 août 1792, lorsque les Tuileries sont investies par les émeutiers.
Venez à l'Assemblée, mes amis !
Pour quoi faire ?
Mais pour supprimer le béton ! Et si ça ne suffit pas, aux Tuileries !
La famille royale qui réussit in extremis à échapper à la mort est conduite 3 jours plus tard à la prison du Temple dans le Marais. Emmanuel de Varesquiel, depuis combien de temps Marie-Antoinette concentre-t-elle autant de haine sur sa personne ?
Ça commence quasiment dès son arrivée en France en 1770, même si elle est ovationnée et acclamée. Mais elle pose un problème, je dirais, à une majorité des élites françaises, dans la mesure où elle est autrichienne. Elle est au fond, par son mariage avec le dauphin en 1770, la caution et le ventre, pour dire les choses, de ce qu'on appelle le renversement d'alliance, qui a été préparé par le cardinal de Bernis et puis continué par le duc de Choiseul, qui est encore au pouvoir quand elle arrive en France en 1770, et qui consiste à une nouvelle alliance passée avec l'Autriche, alors même que l'Autriche est l'ennemi traditionnel de la France. Souvenez-vous du précaré à l'époque de Richelieu, des Habsbourg qui se trouvent à la fois à l'est, au sud, en Espagne, en Italie et en Autriche, sans parler des Pays-Bas autrichiens. Et donc, cette longue tradition de lutte contre l'Autriche est subitement abandonnée pour, au fond, des résultats qui sont assez peu brillants. La guerre de 7 ans est plutôt un échec pour la France, lorsque la France intervient aux côtés de l'Autriche contre la Prusse. Et Marie-Antoinette est, de ce point de vue-là, parce qu'elle symbolise ce renversement des alliances de 1756, et dès le départ, et un certain nombre de pamphlets vont être publiés à la fin des années 70 et dans les années 80, considérée comme une étrangère, et pire encore, comme une autrichienne. Et donc ces pamphlets, on les voit apparaître, par exemple, je pense à un pamphlet qui s'appelle « Le lever de l'aurore », où on suppose que Marie-Antoinette, qui demandait à regarder le lever du soleil du haut des terrasses du château de Marly, où on suppose que Marie-Antoinette des terrasses serait descendue dans les jardins, et on commence déjà à lui prêter des pulsions sexuelles qu'elle n'avait pas, et qui va faire d'elle une sorte de messaline, c'est-à-dire une reine incapable de se maîtriser, de maîtriser ses désirs, et qui aurait non seulement une multitude d'amants, mais également une multitude de maîtresses. Le dévoiement sexuel ou les débordements sexuels dans cette littérature clandestine et pamphlétaire qui se développe dans les années 80 conduit à critiquer les débordements politiques de la reine. Le comportement sexuel de la reine est significatif de son comportement politique, c'est-à-dire de la domination qui est la sienne sur la politique du roi. Tout ceci est déjà plus qu'en germe dans les années 1780 et en 1789, si vous voulez, la messe est dite, quoi. Marie-Antoinette est déjà haïe et détestée.
Et elle passe pour alors dominatrice même, par rapport à son mari, qui a une image de faiblesse.
Face à un mari impuissant et cocu, elle passe pour être une sorte de puissance occulte qui travaillerait pour le compte de son pays d'origine, de Marie-Thérèse d'Autriche, sa mère, qui ne meurt qu'en 1780, et qui comploterait déjà contre la France au bénéfice de l'Autriche dès avant 1789.
Merci Emmanuel de Varesquiel. Dans le prochain épisode, nous évoquerons les mois de détention de Marie-Antoinette à la prison du Temple avec sa famille jusqu'à ce qu'elle soit transférée seule à la conciergerie, antichambre du tribunal révolutionnaire.